J'espère que vous allez bien. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir poursuivre cette série qu'on a commencée la semaine dernière autour de l'évangile de Marc. Alors, des textes qui sont connus, des épisodes qui sont connus, mais combien précieux. J'ai été interpellé dans le prologue de la semaine dernière, notamment. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est tout aussi riche, précieux de nous rappeler des choses que le Seigneur a placées. Donc, je rappelle hein, l'évangile de Marc. Marc, qui souhaite nous présenter, nous aider à réfléchir, à voir qui est Jésus, qui est sa personne, qu'est-ce qu'il a fait? Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Et Marc, dans sa manière de rédiger les choses, il est direct, il va assez droit au but. Lorsqu'il présente les faits, les événements, alors on voit que c'est du tac au tac parfois. Je vous invite à prendre une Bible à l'arrière, hein. J'invite vraiment à avoir le texte sous les yeux, il y en a quelques-uns à disposition. Alors dimanche dernier, on avait vu le prologue, donc cette ouverture de cet évangile où Marc nous a fait revivre les débuts de l'annonce de la bonne nouvelle. Et que cette bonne nouvelle était la venue de Jésus-Christ, et que c'était le moment charnière par excellence de l'humanité, qu'il y avait un avant et un après, pour ceux qui étaient là dimanche dernier. Et Marc présentait, c'est maintenant le moment que s'accomplit ce que le Seigneur a prévu depuis des siècles pour les hommes et rétablir cette relation. Et que cet événement, bah, c'était la venue de Jésus comme roi. Et ce prologue résume un peu tous les éléments qu'on va voir dispersés tout au long de sa lettre. Un moment décisif. Il y a un avant et un après. Le moment est là où Dieu est venu parmi nous. Moi, ce qui m'avait interpellé, je ne sais pas vous, mais c'était ce ciel qui se déchirait pour manifester que c'était le moment où Dieu descendait parmi nous. Le retour du roi, l'arrivée d'un roi. Ce matin, dans le texte, on va voir on va voir toute l'autorité de ce roi. Toute l'autorité de ce roi. Je propose de prendre, hein, on est à Marc, chapitre 1, je propose de relire les versets 14 et 15 qui font un peu la charnière, qui résument un peu tout ce que Jésus va nous faire vivre, et jusqu'au verset 34. Marc 1, versets 14 à 34. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'était en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque, et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous faire perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant « Tais-toi ! Et sort de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandèrent les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci ? Quel est ce nouvel enseignement ? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever, en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne lui permet pas de parler parce qu'il le connaissait. Alors, il y a beaucoup de matières, hein, de détails sur lesquels on pourrait prendre du temps. Mais j'aimerais nous interroger ce matin, c'est si on devait réfléchir à une bonne nouvelle. On a évoqué, hein, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle, évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Quelle serait la meilleure nouvelle qu'on pourrait vous annoncer? À quoi songez-vous si seulement il y aurait telle et telle chose? Vous êtes peut-être de ceux qui voudraient devenir millionnaire, d'acheter la maison de vos rêves et de solder votre emprunt. Vous imaginez peut-être décrocher un emploi qui soit stable, qui soit idéal, qui soit plaisant. Vous aspirez peut-être à voir votre famille, votre femme, votre conjoint devenir soudainement la personne que vous aviez toujours espérée. Vous représentez peut-être votre enfant qui enfin se prend en main et qui vit de manière responsable. Quelle bonne nouvelle vous rendrait heureux, mes amis. Quelle bonne nouvelle vous rendrait heureux. On peut poser la question autrement. Pour quelle raison vous levez-vous le matin? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous anime tout au long de la journée? Quelle cause, quelle chose a le plus de valeur à vos yeux pour que vous y accordiez du temps, des talents, de l'énergie, de la disposition? Qu'est-ce qui est suffisamment important pour que vous le placiez au cœur de votre vie? Marc, il nous dit, voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle des hommes, pour les hommes. La meilleure nouvelle qu'on puisse saisir. Et une vérité tellement grande qu'elle donne de la valeur à tout ce que nous sommes appelés à faire. Et une bonne nouvelle qui s'enracine dans l'histoire de l'humanité. Et qui va nous rejoindre dans nos situations. Et je trouve que dans ce texte, on va voir que cette bonne nouvelle, justement, hein, verset 14, je rappelle simplement, hein, où Jésus dit, il annonce la bonne nouvelle du royaume, c'est un royaume la bonne nouvelle, et le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. La bonne nouvelle, c'est l'idée d'un royaume. L'idée d'un royaume. Un royaume. C'est pas facile d'imaginer un royaume, hein. Et en plus, il parle même d'un royaume avec un roi, hein, Jésus-Christ. Alors cette notion de royaume, quelque chose qui parcourt l'Écriture, qui parcourt la Bible. Et on a besoin de prendre parfois un peu de recul, de se dire, mais c'est quoi ce royaume? On n'est pas familier, on est dans une démocratie. Alors on recule, regardez, moi j'ai mis la terre, on recule à la Genèse, où il y a un Dieu qui a créé l'univers. Qui a créé la Terre. Extraordinaire. Une planète merveilleuse. Planète bleue, hein. Où il y a des habitants, où il a placé des habitants, où il a placé sa création. Des hommes à son image, merveilleux. Où les choses sont ordonnées. Elles sont belles, elles sont bonnes à voir. Une planète où il y a toute la liberté de créer, d'imaginer, de gérer. Et une seule chose Dieu demande, c'est que on respecte cette harmonie dans ce rapport avec les autres et dans ce rapport à l'autorité de Dieu. Dieu est le roi de ce royaume qu'il vient de créer. Mais l'être humain fait quelque chose, hein, et sans rappeler dans le détail, il tente sa chance pour être, il veut quoi? Être indépendant de Dieu. L'être humain refuse cette royauté. Je veux faire les choses par moi-même. J'ai pas besoin de respecter ce que tu as créé. Je suis libre, je veux faire les choses par moi-même. Et c'est ce que la Bible appelle péché, cette rébellion, ce désir de rejeter l'autorité d'un Dieu sur sa vie. On veut être les rois nous-mêmes. On parle de royauté, de royaume, on veut être le roi nous-mêmes. Et du coup, on le sait, les conséquences que nous présente l'ensemble de l'Écriture, c'est l'abîme, le désordre, la rébellion, les tracailles, tout ce qui va avec cette rébellion. Alors pour nous aider peut-être encore à voir plus clair, une petite image aussi, et elle vient pas de moi, elle vient d'un pasteur collègue, Timothée Keller. Imaginez-vous la voiture de l'année. Alors moi je suis pas fan de voiture, hein, quand on avait des conversations avec les autres, je m'en sortais pas, les modèles, les marques, enfin bref. Bon là c'est un un concept car de Peugeot, hein, parce qu'on est dans le pays de Peugeot. Imaginez-vous la voiture de l'année, votre voiture de vos rêves. Un bolide qui, avec toute la technologie, toute la finesse du détail, toute l'ergonomie, enfin tout ce que vous voulez, aujourd'hui, voilà. Et vous imaginez, vous le placez dans les mains d'un enfant de 5 ans. Vous imaginez le désastre. Imaginez le désastre. Ça fait pas 5 mètres et c'est dans le fossé. Et c'est cela l'histoire de l'humanité. Dieu a créé un potentiel extraordinaire, infini, merveilleux. Mais l'être humain, comme un enfant de 5 ans, veut faire sa royauté tout seul. Il veut gérer sa vie comme il l'entend. Mais la bonne nouvelle, et c'est cela la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a pas abandonnés dans cette folie d'un gamin de 5 ans au volant d'un bolide. Il est venu rétablir les choses. Et ce matin, on va voir effectivement que Jésus-Christ, il est le roi. Le roi, il est venu comme un roi dans ce royaume. Et on va voir dans ce passage toute l'autorité de Jésus. Toute l'autorité. Alors la grande question que je nous laisse ce matin, c'est est-ce que tu veux de ce roi que la parole et que Marc nous présente? Est-ce qu'on veut de ce roi souverain sur nos vies? Ou est-ce qu'on dit non, moi je veux régner ma vie, moi je veux gérer ma vie, moi je veux rouler ma voiture? Parce que la bonne nouvelle de Dieu pour les hommes, c'est Dieu. Et c'est ce qu'on a vu dans toute cette introduction, là, au début de semaine, la semaine dernière, pardon. Et quand on veut définir la question du royaume, c'est la question du règne. C'est quoi qui règne? C'est là où Dieu règne. C'est là où Dieu est honoré comme un roi. C'est là où la volonté de Dieu est respectée. C'est là où la justice de Dieu est visible. C'est là où la puissance de Dieu est manifeste. C'est là où Dieu règne. C'est là où il a autorité. C'est là le royaume de Dieu, où il y a une paix, une joie, une grâce, dans ce privilège de rentrer dans ce règne-là. Alors, sans rentrer dans le détail, mais les Juifs, à ce moment-là de l'histoire, attendaient la venue d'un roi. Ils attendaient le retour du roi. Alors, ce texte qu'on a lu ce matin ouvre toute une portion de plusieurs chapitres où Marc va nous présenter justement cette autorité royale de Dieu, cette autorité qu'il a. Et je veux souligner assez rapidement mes 4 éléments de cette autorité de Jésus. Et on voit un peu, il y a ce concept action, il y a l'action de Jésus et puis la réaction des foules. Alors premièrement, on voit l'autorité de Jésus sur les hommes, c'est les premiers versets. On découvre les autorités, l'effet des paroles de Jésus dans la vie d'individus. D'individus, vous l'avez vu, de 4 personnes, de ceux qui vont devenir 4 parmi les 12 disciples. Ils sont au boulot, au travail, ils sont pêcheurs, on connaît ces épisodes. Et ces 4 personnes sont une belle illustration de la manière dont ils accueillent le royaume de Dieu dans leur vie. Ils acceptent, on le voit, Jésus sans réserve, sans condition. En tout cas, c'est la manière dont Marc présente le récit. 2 paires de personnes, on a Simon, André, hein, Pierre et André, et Jacques et Jean. Et tous les deux sont pêcheurs professionnels. Première paire, versets 16 et 17, comme Jésus marchait le long du chemin de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac, c'était en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi. Littéralement, venez à ma suite, venez me suivre. C'est un appel à un engagement. Et l'aspect de cet engagement, on va le retrouver tout au long de Marc. Suivez-moi. Est-ce que vous voulez me suivre? Être un disciple de Jésus, on l'a vu les derniers mois, c'est suivre Jésus. C'est marcher à sa suite. Et ici, ça se passe de manière littérale. Ils le suivent, ils laissent leur boulot et ils suivent. Sur le chemin, Jésus qui est un prédicateur itinérant, ils sont devenus maintenant des compagnons de voyage. Et Jésus complète même... Il dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes. » Il leur confie une mission. Et cette mission, on va voir, qui va éclater dans le livre des Actes, où ils vont prendre la suite de Jésus et avoir une moisson extraordinaire à la gloire de Dieu, où il y a un peuple derrière, ce roi Jésus. Alors, on pourrait se questionner pourquoi il dit pêcheurs d'hommes. Il utilise simplement le langage qu'ils connaissent, hein. Mais il leur demande de changer de vocation. Au contact de Jésus, ces hommes vont devenir, ils sont passés de pêcheurs à la ligne, on pourrait dire, et pour devenir des pêcheurs d'hommes, ils vont suivre Jésus. Et l'appel, il est convaincant. L'appel de Dieu ici, il est convaincant. Parce qu'on l'a vu, verset 18, Marc nous dit « Aussitôt, paf, il laisse tomber. » Sans équivoque. C'est pas banal, hein. Ils laissent leurs outils de travail, ils laissent leur vocation, ils laissent leur passé et ils suivent. Un nouveau chapitre de leur vie s'ouvre. Ils répondent sans tarder. Et on a le même principe avec la deuxième paire de frangins, hein. Jacques et Jean. Pareil. Cette même idée, aussitôt. D'ailleurs, il y a même un peu plus. Hein, ils laissent le père, ils laissent leurs ouvriers, ils laissent leurs barques, leurs outils de travail. Ils laissent tout. La réponse est identique. On a même l'impression qu'il y a une certaine progression dans le renoncement. Alors, on pourrait faire plein de remarques, hein, de se dire, mais Jacques et Jean sont pas pauvres, c'est ce qui est bien, ça casse le cliché, hein, de se dire, moi Jésus, il a choisi que des disciples qui avaient rien à faire. Qui n'était pas important dans la société. Non, là, Jacques et Jean avaient une affaire de famille prospère qui fonctionnait. Il y avait des ouvriers. Il y a un certain rang social. Pierre, Simon et son frère, André, ont une maison. Enfin, je veux dire, c'est pas anodin. C'est des hommes qui ont un certain style de vie important dans la société. Quitter ses parents, pour des juifs, c'est choquant. On devait honorer ses parents. On devait assurer la pérennité d'un commerce paternel. Pour ceux qui ont eu un commerce paternel, voilà, il y a certaines fiertés quand les enfants reprennent l'affaire de la famille. C'est choquant quelque part pour entendre cela que deux frères sont prêts à tout lâcher pour Christ. L'autorité de Christ, un appel irrésistible. 4 qui laissent tout tomber. Et on le verra dans la suite aussi, d'autres hommes vont tout laisser. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand on rencontre Jésus, on est appelé à le suivre. On le voit, c'est Jésus qui appelle ses disciples. À l'époque, les disciples, c'est eux qui choisissaient le maître, comme exemple. Mais là, on voit que c'est Jésus qui appelle les hommes et les femmes à sa suite. Et il a suffi d'une simple parole de sa part. Voilà toute l'autorité de ce roi. Il l'interpelle et il peut toucher les cœurs. Et on voit que suivre Jésus, bien sûr, implique des renoncements. Il y a une nouvelle orientation. Jésus est l'homme dont on ne peut refuser l'appel. Jésus, roi. De façon volontaire, j'enlève ma couronne. Je suis plus le roi et je désire le suivre, lui. C'est pas moi qui prends le volant. C'est lui. Je lui laisse ce volant. Alors oui, peut-être que aujourd'hui, on a donné sa vie à Jésus, on lui a donné le volant, mais à un moment donné, on dit « Jésus, tu veux regarder par là, j'aimerais bien reprendre le volant, ou être comme ça. » Mais chaque matin, je dois me rappeler, comme cette prière du Notre Père, que ton règne vienne. Je veux que tu sois roi sur ma vie, sur mon cœur, comme au ciel. Et je crois que c'est une grâce de l'avoir comme roi dans sa vie. On a un roi qui règne. On a un roi qui règne. Dans la suite des versets, il y a de l'action et ça se passe dans 24 heures. Et c'est fou ce qui se passe. En moins de 24 heures, pas mal de choses. Deuxième élément, on voit l'autorité de Jésus dans son enseignement, versets 21 et 24. On voit que Jésus et bien sûr ses premiers acolytes se rend dans la synagogue, là où se retrouvaient les fidèles juifs pour lire l'écriture, et prier ensemble. Et on voit que Jésus enseigne. Alors il n'y a rien de surprenant, hein, les hommes de passage, on leur donnait la possibilité de lire et de commenter la lecture. Donc voilà, il n'y a rien de choquant pour l'époque. Mais on voit le contenu de l'enseignement n'est pas détaillé. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il a dit. Et on le dit, son enseignement correspondait pas à la manière dont les enseignants juifs avaient l'habitude de prêcher. Parce qu'il y a cette réaction. Les auditeurs sont impressionnés. À l'écoute de Jésus, on est impressionné. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes juifs. Ce qui frappe, c'est l'enseignement de Jésus, ce qu'il a dit, ce qu'il a laissé. Et il a parlé avec autorité. Il a dit là, on pourrait dire, on le sait aujourd'hui, il a parlé de la parole de Dieu. Alors le contraste avec les spécialistes de la loi, qui étaient les spécialistes, les théologiens de l'époque, les prédicateurs reconnus, qui étaient les garants de ce qui devait être enseigné, c'était leur vocation, c'était leur spécialité, bah, Jésus les surclasse. Parce qu'il est en train de dire à ce moment-là, j'aurais aimé être parmi ses auditeurs. Et tous ces grands juifs de l'époque n'ont pu que constater qu'ils n'avaient pas la même autorité que Jésus. Jésus, dans sa parole, a une autorité qui dépasse toute autorité. Son message est unique. Il parlait véritablement de la part de Dieu. Ce que Jésus dit a de l'impact. On ne peut pas rester insensible. C'est pas du divertissement, c'est pas un show, mais c'est un enseignement profond et qui percute les cœurs lorsqu'on rencontre la parole de Christ. Et on aura des exemples d'enseignement par la suite dans Marc. Il est l'homme dont on est obligé d'écouter. Et nos cœurs ne peuvent rester insensibles. Reconnaître l'autorité de Jésus, c'est reconnaître qu'il a plus de sagesse que moi, c'est reconnaître que sa parole, c'est une parole de vie, qu'il a la vérité. C'est qu'il enseigne avec une autorité plus grande que la mienne. Parfois, on est dans des périodes de notre vie où on ne sait pas comment diriger nos vies. On est confus, on a une difficulté de prendre des décisions, il y a des choses qui sont lourdes. Mais si je reconnais Jésus comme roi qui a des paroles de vie, des paroles de vérité, si je reconnais son autorité dans son enseignement, dans sa sagesse, dans les Écritures, dans ce que la parole de Dieu m'enseigne, c'est la parole de Dieu. Et là, les personnes là autour sont étonnées, sont stupéfaits, sont saisies, ça les impressionne. L'autorité de Jésus se manifeste dans son enseignement, dans ce qu'il nous dit. Et là, on a un coup de théâtre, au verset 23, comme Marc sait bien le faire. Et on voit ici un troisième aspect, l'autorité de Jésus sur le monde spirituel. Verset 23 à verset 28. Et puis à la fin, il y avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur qui s'écria « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Dans cette synagogue, dans cet endroit où on lisait l'Écriture, on lisait la parole de Dieu, où la parole de Dieu a été annoncée, il y a un homme qui a un esprit impur. Bon. Alors nous, Français, enfin cartésiens comme moi aussi, on a parfois du doute sur l'existence d'un monde spirituel. La question des démons, on n'aime pas trop. On refoule, on peut être dans une culture, on est dans une culture qui refoule un peu cette question-là. Mais prenez simplement le temps de voyager ou de discuter avec d'autres cultures que nos cultures occidentales et où ils vont clairement vous parler que non, il y a des esprits spirituels. C'est vrai, c'est une vie spirituelle qu'on a parfois du mal à appréhender. Il y a une expérience troublante dans ce passage. Mais quand on regarde les faits divers, c'est troublant de voir des choses mais terribles, horribles qui se passent dans ce monde. Vicieux. Oui, mes amis, la Bible ne nous cache pas que le diable existe, qu'il y a une autorité spirituelle qui est en lutte. Et la situation est tragique parce que la personne est à ce point affectée que c'est l'esprit qui s'exprime dans ce texte. Que nous veux-tu, Jésus ? On est dans la prise de position du combat spirituel que je vous évoquais dimanche dernier. La présence de Jésus dans ce monde dérange. Dieu est venu en territoire ennemi livrer bataille. Et vous avez entendu ce qu'il a dit ? Es-tu venu pour nous perdre ? Oui, Jésus livre bataille et les autorités spirituelles sous la domination du diable sont perdues. Il est venu détruire ces autorités spirituelles malfaisantes. Et l'esprit mauvais continue, je sais qui tu es. Même l'esprit mauvais s'intéresse à l'identité de Jésus. Je vous rappelle, Marc, il veut nous montrer le focus qui est Jésus. Même les puissances spirituelles occultes reconnaissent de qui est Jésus, le Saint de Dieu. Alors, plein de choses à dire sur cela, mais l'autorité spirituelle mauvaise reconnaît qui est Jésus, reconnaît que c'est un roi qui a autorité. Et là encore, l'autorité de Jésus éclate dans toute sa force, dans la réaction de Jésus. Et là, c'est le verset 25, hein, où Jésus le menaça et dit « Tais-toi et sors de cet homme ». Et vous voyez cet homme qui convulse, et l'esprit mauvais qui abandonne cette vie. Tais-toi. Tais-toi. Silence. Ce n'est pas à toi de divulguer l'identité de Jésus. Alors on pourrait dire pourquoi il donne cet ordre à ce démon. Alors il va dire à d'autres moments de se taire à d'autres qui ont été guéris, mais là on voit que c'est tout, d'un tout ordre. Il souhaite pas que l'autorité de Jésus soit. C'est pas aux esprits mauvais de révéler qui il est, mais c'est lui qui va révéler qui il est. Et il le montre. Et il le montre par cette autorité. Sors de cet homme. Et on voit l'obéissance immédiatement. Hein. Total de cette autorité de Jésus par une simple parole, directe et pleine d'autorité. C'est fort, hein. Au point où la foule, encore, autour d'eux, dans cette synagogue, sont impressionnés. Dieu a autorité sur le monde spirituel. J'aimerais un peu aller plus loin, et laissez-moi le dire comme ça, alors, c'est peut-être un peu choquant, mais on a tous des démons en nous. Alors, je suis pas très fort en démonologie, mais c'est voilà. Et je parle pas au sens littéral. D'accord? Je suis pas en train de dire il y a un démon en nous. Mais quand je lis l'écriture, la Bible me dit clairement qu'il y a le royaume de Dieu et le royaume du diable qui sont en opposition, où il y a une guerre. Et quand je m'éloigne du royaume de Dieu, quand je m'éloigne de Dieu, je fais le mal. Je suis en train de faire l'œuvre du diable, l'œuvre de celui qui gouverne ce monde. Et sans le prendre au sens littéral, hein, il nous a bien introduit tout à l'heure Steven, on a tous des domaines avec lesquels nous sommes en train de nous battre, où il n'y a pas le royaume de Dieu qui est en train de régner. Des domaines où nous sommes pris en étau. On peut l'appeler comme on veut, des dépendances, des vices, des perversions, des choses où on voudrait faire la volonté de Dieu, mais on n'y arrive pas, on est en lutte avec moi-même, ça revient et ça revient. On a tous connu des épisodes dans nos vies comme ça, on en connaît peut-être. Où on fait le jeu du royaume du diable plutôt que le royaume de Dieu. Et c'est dur à arracher, parce que j'ai pas cette liberté de moi-même d'arracher ce qui déshonore Dieu. Et je crois que là, Jésus veut nous montrer, j'ai toute autorité, j'ai tout pouvoir sur ce qui lutte dans vos cœurs. J'ai toute autorité. Une libération. Est-ce qu'on le croit que Jésus peut nous libérer? Que Jésus peut chasser tout ce qui le déshonore? Ici, c'est fort parce que c'est l'ultime. C'est carrément la présence malfaisante dans nos vies. Jésus a toute autorité pour chasser tout ce qui ne vient pas de lui. Tout ce qui, dans nos vies, le déshonore. Il a toute autorité. Ce roi-là est capable. Cette bonne nouvelle est assez grande pour cela. Non seulement pour que je puisse être pardonné, mais pour que je puisse être aussi être libéré de toutes ces choses dans ma vie et qui sont parfois secrètes, tapies au fond de mon cœur. Et je crois qu'on doit avoir cette liberté de pouvoir nous voir les uns les autres et de prier pour ces domaines dans nos vies où l'autorité de Jésus n'est pas manifeste. Où il y a ce combat entre les puissances spirituel. Et les gens sont saisis, sont effrayés. Quel est cet enseignement? C'est inhabituel. Mes amis, on est une ère nouvelle s'ouvre. Il y a quelque chose qui se passe. Il est l'homme dont on est obligé d'obéir. Il dit quelque chose, ça s'accomplit. Quand Jésus parle, on voit son autorité. Et on voit de même, hein, dans ces passages, que la popularité s'accroît. Les gens sont « waouh ». Ce sera pas toujours le cas. On retrouve même cette autorité spirituelle, c'est pour ça que je vous ai mis aussi les versets 32 et 34, donc là on le voit de façon unique, et on le voit à la fin de notre passage, où les foules viennent, il y a des gens qui sont malades et des gens qui sont possédés, et Jésus les guérit. On voit même, wow, Jésus il s'arrête pas à une personne, mais voilà, il a toute autorité. Plusieurs sont amenés devant Jésus à reconnaître, à être guéris de ce que Jésus a fait. La mission de Jésus est de remporter cette lutte entre Dieu et Satan, entre les forces du bien et les forces du mal. Ils ne sont pas de taille devant la puissance et l'autorité de Christ. Quand Jésus est présent, le royaume de Dieu est là. Mais la journée n'est pas finie, et c'est mon dernier point. L'autorité de Jésus se voit dans quoi ? Sur les maladies. Sur les maladies. On voit qu'il va guérir la belle-mère de Simon, versets 29 à 31, et puis il va guérir, il va encore l'ouvrir, il va guérir une foule de malades. Moi, je trouve que Marc, il est très fin dans la manière dont il nous présente les choses. Il relate à la fois des épisodes personnels, intimes, un à un, en petit comité, et à la fois, il est public. Quelle autorité de Jésus. Je voudrais juste relire verset 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. On voit que Jésus va guérir cette femme, cette belle-mère de Pierre. Il est question de fièvre. Alors nous, la fièvre, c'est un symptôme, hein, mais à l'époque, c'était vraiment considéré comme une maladie, parce qu'on ne savait pas tout ce qu'il y avait derrière. Et quelle est la réaction de Jésus ? Et là, elle est tout autre. Elle est d'un tout autre ordre. Pas un mot. Pas un mot. En tout cas, nous est dit ce texte. Verset 31. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main. Moi, je pense qu'il y a toute la douceur là de Jésus, roi, serviteur. Il prend la main et la fièvre la quitta. Puis elle se mit à les servir. Il s'approche plein de tendresse et de compassion. On va le voir chez Marc, le toucher est important, on le voit dans plusieurs épisodes. Et là, aussi une guérison instantanée, c'est aussitôt. La réaction de la belle-mère, elle se met aussitôt à les servir. Alors voilà, on pourrait débattre, mais je voudrais c'est choquant, une femme qui va servir, on pourrait se dire « Oh là là !» Est-ce que les disciples autour, ils n'auraient pas pu laisser reposer cette belle-mère, alors qu'elle a passé un épisode de fièvre, je pense plusieurs jours alité, puisque c'était assez sérieux pour qu'on demande à Jésus d'intervenir. On pourrait dire, mais elle aurait pu la laisser se reposer. Voilà, maintenant elle a besoin de quelques jours de... Non, mais Marc, il est en train de nous montrer que ce rétablissement, il est tout de suite. Elle est capable de... Elle n'a pas besoin de repos. Elle est parfaitement guérie, parfaitement rétablie. Elle n'a pas besoin de se reposer. Et plus subtilement aussi, et on le verra après, quand Jésus intervient, il nous appelle à le suivre, à être à son service. Et Jésus reconnaît l'autorité, la place de la personne au service. Et je pense qu'il souligne le caractère exemplaire de cette femme qui se met à servir Jésus-Christ. Là, il y a d'autres passages dans Marc qui évoqueront cette question d'être serviteur de Dieu et serviteur de son prochain. Et comme je l'évoquais, à la fin de notre texte, il y a cette amplification. Jésus guérit des malades. Il y a des malades qui viennent en foule. Versets 32 à 34, le soir, donc après le sabbat, voilà, il y a la liberté de pouvoir trimballer tout le monde dans ce monde juif. Après le coucher de soleil, on lui amena tous les malades. On est encore dans la même journée, et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant la porte. Et Jésus guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas de parler parce qu'il le connaissait. D'une intimité d'une maison à une guérison, à des guérisons publiques. Toute la ville est devant là. Toute l'autorité de Christ éclate en puissance. Il a l'autorité sur les maladies. Vous imaginez un peu la scène ? Là, c'est écrit en deux phrases, mais on imagine la scène. Tous les malades de tout type et qui sont guéris. Et il n'est pas suggestion que quelques-uns sont guéris et d'autres pas. Non, il est question de diverses maladies et Jésus a l'autorité pour réparer, consoler, restaurer. Et oui, aujourd'hui, il fait de même encore. J'en suis convaincu. Oui, on prie et on le fait souvent pour que Jésus vienne guérir les maladies, pour que Jésus vienne intervenir dans une vie qui est touchée par le cancer. Par des gens qui sont touchés par la dépression, des gens qui vont pas bien, et il intervient. Mais je suis convaincu aussi que ces guérisons-là qui sont dans l'Écriture pointent vers une guérison beaucoup plus importante, plus profonde, plus complète. Parce que ces personnes qui ont été guéries de maladies, ben, ils n'ont pas été guéris totalement puisque la mort va les frapper bien des années après. C'est clair ici que Jésus a la puissance de faire des miracles, c'est clair. Mais ces miracles pointent vers un miracle encore plus important, où il va guérir le plus terrible des fléaux qui touchent les hommes, la mort. Et quand je suis touché par ce roi qui a tout pouvoir, il va toucher, guérir mon cœur blessé. Il va le restaurer. On est rebelle, je l'évoquais tout à l'heure avec cette lutte au-dedans. Mais Dieu, il a dit, du moment où on a reconnu sa royauté dans nos vies, où il est devenu notre Seigneur et notre Sauveur, Christ entreprend une guérison tout au long de notre vie. Pour qu'un jour, nous serons dans sa présence avec un corps glorifié, débarrassé de tout ce qui souille, de tout ce qui n'est pas à sa place. Mes amis, sa guérison dans nos vies, elle a commencé lorsqu'on a reconnu son autorité, quand j'accepte l'autorité de Christ. Alors que retenir ? Jésus-Christ, roi du royaume de Christ. On voit toute cette autorité manifeste, éclatante, dans ces quelques passages, où rien ni personne ne peut résister. Une autorité où Jésus appelle des hommes à le suivre, où il y a un engagement radical. On voit une autorité dans son enseignement, dans ce qu'il nous dit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Personne n'a parlé comme lui. On voit qu'il a autorité sur toute puissance, y compris les puissances occultes, mauvaises. Rien n'est de taille dans cette lutte avec Dieu. On voit l'autorité de Jésus avec la compassion qu'il a avec ce qui nous touche au plus près, les maladies, les deuils. Et on va découvrir au fil des pages que rien ne lui résiste. Alors, quand on réfléchit à cela, j'ai déjà donné quelques applications, mais il y a une foule d'applications, hein, si on réfléchit à ces quatre éléments d'autorité, simplement listés dans ce texte. Quelques réflexions. Est-ce que je suis prêt à reconnaître qu'il a tous les droits sur ma vie? Je l'accepte comme roi, mais est-ce que je suis prêt à laisser tout comme l'ont fait les disciples et à le suivre, sans réserve, sans délai? Est-ce que je suis prêt au plus grand des sacrifices? Lui qui souhaite nous intégrer à sa mission. Est-ce que je suis convaincu de son enseignement? Est-ce que je suis convaincu de ce qu'il a dit, ou je me dis, bon, il a parlé il y a des siècles, aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Est-ce qu'on est convaincu qu'il y a la parole de Dieu? Que Dieu nous parle par son Fils? Est-ce qu'on se laisse instruire, conduire, modeler par la parole vivante de Dieu? On l'évoquait, le chant des enfants le disait, hein. C'est de la dynamite, ça transforme les cœurs, ça coupe là où ça fait mal. Est-ce qu'on laisse son enseignement avoir une autorité sur nos vies? La guérison, c'est un sujet complexe, hein. Mais je crois qu'on doit éviter les deux extrêmes. Bien sûr, Jésus guérit de façon extraordinaire, on le voit de façon radicale, directe, mais il n'agit pas toujours ainsi. Et on le voit dans la parole, toute la richesse aussi, la théologie de la souffrance, où Dieu nous appelle à vivre dans des situations difficiles en comptant sur lui. Il n'agit pas toujours ainsi. Mais si le royaume de Dieu est là, et si Jésus il a commencé quelque chose, et il va être pleinement manifesté aussi dans l'espérance. Et Jésus fera bien des miracles dans notre vie. La question de ce combat spirituel. Alors on a besoin d'avoir une position équilibrée. Il ne faut pas nier l'existence de ces forces occultes, mais il ne faut pas en voir partout non plus, parce que des fois on a les deux extrêmes. Mais l'Écriture nous encourage à avoir conscient de cela, que bien des situations compliquées dans nos vies dépendent de notre péché et des forces qui nous dépassent, mais nous sommes des enfants du roi qui a vaincu. Nous sommes du côté bon côté, du côté du victorieux. Et je crois que c'est des choses qu'on a besoin de se rappeler aussi. Oui, on peut avoir des soucis, des luttes. Il y a de la violence dans des combats spirituels qu'on est obligé de livrer, mais nous pouvons demander le secours de celui qui a vaincu. Croire en la bonne nouvelle, c'est croire dans ce roi qui a toute autorité. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mes amis. Je dois lui faire confiance. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que pour plaire à un roi, pour faire partie de sa faveur, pour être bien vu d'un roi, on devrait donner des cadeaux, on devrait être bien zappé et tout ça. Mais c'est ça aussi toute la grâce. Jésus devient le roi non pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'il a fait la faveur de nous rencontrer. On est aux faveurs de ce roi-là. Un roi serviteur qui s'est sacrifié, qui m'accueille dans son royaume. Non pas parce que j'aurai des titres, non pas parce que j'aurai des capacités, non pas parce que, mais par grâce. Et là, je reviens à ces deux versets, le 15 notamment, où Jésus dit « Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. » Et il est question de changer d'attitude. Ça veut dire reconnaître que c'est pas une bonne idée que moi je sois le roi, mais la meilleure idée c'est que lui soit le roi dans ma vie. C'est-à-dire la mort à soi-même, c'est radical. Et croire que Dieu, il a envoyé ce roi-là pour me libérer et qu'il a toute autorité. Et que c'est la plus belle des choses. Reconnaître cette bonne nouvelle, accepter cette bonne nouvelle, c'est accepter. Là, j'ai remis une voiture, un volant. Je te donne le volant de ma vie. C'est connu, hein, la bagnole de ma vie. J'ai embouti des milliers de fois déjà cette belle voiture. Mais je crois que toi, Dieu, Jésus, tu as toute l'autorité pour me conduire vers des routes paisibles, vers des paysages abondants, vers des vertes vallées. Je propose simplement de prendre quelques minutes de silence et on va chanter ce chant qui appelle à ce que Christ et toute autorité soit seule ma vision, au roi de mon cœur. Prenons quelques temps de réflexion ou de nous laisser façonner par cette autorité ultime, bienfaisante, de grâce de notre Dieu.